talmudique. En cette période de fragilité sanitaire et de violence terroriste, de remise en question des modèles sociétaux aussi, des questions nous assaillent de toutes parts. Vers qui se tourner ? Les réponses sont multiples. Certains se tourneront vers leur psychanalyste, leur médecin, leur syndicat ou leur cellule politique, ou encore vers les journalistes ou les scientifiques, d'autres vers leur imam, leur curé ou leur professeur de philosophie, et d'autres encore vers leur rabbin. Un clin d'œil à ces nombreuses situations où le rabbin est interrogé par toutes sortes de personnes qui considèrent que le rabbin, par la sagesse multiséculaire dont il est porteur, reste une conscience qui peut les orienter en temps de détresse. Dès lors, nous avons pensé qu'il était important de faire plus ample connaissance avec ce qu'est un rabbin, qui d'ailleurs peut être un homme, mais aussi une femme. Quelles sont ses fonctions, sa formation? Quels sont ses rapports à la famille, aux politiques, à la République, à la laïcité, aux autres traditions religieuses, ses rapports à l'éducation et à l'enseignement? Et pour aborder toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir un rabbin riche d'une longue expérience dans tous ces domaines, très engagé dans le dialogue interreligieux et pédagogue hors pair et auteur de très nombreux ouvrages dont « Pour expliquer le judaïsme à mes amis ». Rabbin Philippe Haddad, bonjour.
Bonjour.
Philippe Haddad, c'est un très grand plaisir de vous recevoir dans Talmudique. Vous êtes rabbin avec le rabbin Jonas Jacquelin de la communauté de la synagogue de la rue Copernic. Nous allons revenir en détail sur toutes les questions que j'ai posées, mais si vous le voulez bien, commençons par le commencement. En une phrase, pour vous, qu'est-ce qu'un rabbin, Philippe Haddad ?
Vous connaissez le jeu, on demande à une personne si tu étais une fleur, ou si tu étais un animal, ou si tu étais un objet, qui serais-tu ? Moi, j'ai envie de dire qu'un rabbin, c'est un pont. En hébreu, un guécher. Parce que cela permet de relier, dans ce cas de figure, le passé, le présent et l'avenir. C'est aussi important d'apporter le message de la tradition dont on est porteur, que d'amener aussi les fidèles vers ce passé, avec toujours ce défi d'actualiser. Vous qui aimez les jeux de mots, vous savez que le mot « guécher » peut s'inverser en « guéresh », qui est le divorce, justement pour qu'il n'y ait pas de divorce entre le présent et le passé, la mémoire et l'avenir. Je vois un rabbin comme un pont qui relie les deux rives et qui essaye justement de maintenir cette histoire, cet enseignement, cette transmission.
Rabbin est un métier que l'on pratique au sein d'une communauté, mais c'est aussi d'abord un diplôme qui s'obtient à la fin de longues études faites dans le cadre d'écoles rabbiniques reconnues et souvent très prestigieuses. Comment le rabbin, je le répète, qui peut être un homme ou une femme, est-il formé, Philippe Haddad ?
Oui, vous dites que c'est un métier, il faut dire aussi que c'est une vocation. C'est peut-être un appel d'une certaine manière, parce qu'au départ, je ne me destinais pas à être rabbin, surtout que mes parents voulaient que je sois avocat ou médecin ou ingénieur. Et c'est au cours de mon adolescence, en quelque sorte, que j'ai retrouvé profondément mes racines juives, et que plutôt que de devenir un ingénieur, j'ai voulu devenir rabbin. Alors, je me suis inscrit à cette école prestigieuse du séminaire israélite de France, qui se trouve à Paris, à la rue Vauquelin. On peut dire qu'on devient rabbin en suivant un cursus, on pourrait dire bac plus 6, c'est-à-dire 5 années d'études, et la dernière année étant une année de stage auprès d'un grand rabbin. Et donc, pendant 5 ans, j'ai chauffé les bancs du séminaire. On a eu cette formation aussi bien traditionnelle comme la Bible, le Talmud, le Midrash, mais aussi une ouverture sur le monde à travers la philosophie, l'homélie, le chant aussi, puisqu'un rabbin peut très souvent officier dans sa synagogue. Et c'était une formation très très importante, ce qui n'empêchait pas d'ailleurs d'aller aussi étudier ailleurs ou chez d'autres maîtres. Je me souviens qu'à cette époque-là, j'allais très régulièrement écouter par exemple Léon Ashkenazi dit Manitou. Et mon année de stage, ma 6e année, eh bien je l'ai passée auprès du grand rabbin Sitruk, paix à son âme, voilà, qui était à l'époque le grand rabbin de Marseille, qui deviendra par la suite le grand rabbin de France. Et ça a été vraiment une formation très très importante qui m'a permis ensuite d'occuper mes différents postes de rabbin.
Alors avec votre expérience aujourd'hui de plus de 40 années sur le terrain, pensez-vous que cette formation a été suffisante ? Qu'y aurait-il peut-être à modifier, rabbin Philippe Haddad ?
Il y a des choses que j'ai apprises, mais que je n'ai pas pu appliquer forcément dans toutes les communautés. J'étais, comme beaucoup d'étudiants rabbins, d'abord pétri de mes vérités, et ensuite de mes pages de Talmud, et je me suis rendu compte que dans une communauté, c'était pas la priorité, qu'il y avait d'abord des questions humaines à résoudre, qu'il y avait la vie juive au quotidien, depuis la naissance jusqu'à la mort, en passant par la bar mitzvah, bat mitzvah, etc., d'accompagnement des familles. Disons que cet enseignement, bien sûr, m'a donné cette force, et puis l'étude est un des éléments très importants de ma vie jusqu'à aujourd'hui, mais peut-être ce qui me manquait à l'époque, c'était une certaine formation sur le terrain. Donc cette année que j'ai passée à Marseille a été vraiment très très importante. Et puis il y avait des aspects aussi, j'étais pas prêt, par exemple d'avoir une vision claire de la sociologie contemporaine, les mariages dits, les mariages mixtes, comment gérer ces situations, le dialogue interreligieux. Donc c'est vrai que ça m'a manqué, mais le terrain m'a beaucoup apporté, même des erreurs d'ailleurs. J'avais un état d'esprit un petit peu plus cinglant, un peu plus fermé à une certaine époque. C'est-à-dire, on sort du séminaire, on est sûr d'avoir la vérité, on va changer le monde. Hein. Comme cette histoire chassidique qui dit non, bah, avant de changer le monde, change-toi toi-même et puis après tu verras si tu peux changer le monde.
Alors le terrain vous a changé. En français, on dit rabbin, rabbinique, c'est l'adjectif, rabbi en anglais. En hébreu, on dit rabbi et rav. Que signifie ce terme? Puisqu'on en parle, il serait important de savoir
Alors rav, c'est un mot qu'on trouve dans la Bible. D'ailleurs, très tôt, quand Dieu bénit l'homme et la femme, il dit « Pérou urvou », fructifier et multiplier. Et donc la racine rav, R-B, qui donne rabbin, signifie « beaucoup ». C'est le beaucoup de savoir qu'on a reçu de ses propres maîtres et peut-être aux yeux des fidèles. Le rabbin, c'est celui qui a un beaucoup de savoir, voire de sagesse pour pouvoir éclairer la vie, pour pouvoir répondre à des questions, soit des questions sur le texte, soit des questions sur la vie. Et on est sûr qu'en venant voir le rabbin, il y aura le petit miracle de la bonne parole qui va aider. Vous savez, il y a autant de rabbins qu'il y a autant de juifs. Donc il y a toutes sortes, je pense, de rabbins. Personnellement, et avec le temps, avec l'expérience, oui, j'ai appris qu'il fallait développer davantage sa dimension, sa vertu d'accueil et de miséricorde, plutôt qu'une stricte observance, et plutôt qu'avoir un discours culpabilisant ou accusateur dans ses homélies. Au contraire, être accueillant et dire aux fidèles, même qui viennent de temps en temps, comme on dit les juifs de Kippour, ben, c'est votre maison, c'est votre famille. Vous êtes bienvenus, et puis même des fois il y a des personnes non juives qui arrivent, bah, c'est votre maison, c'est comme dit le prophète Isaïe, hein, cette maison sera appelée la maison de prière pour tous les peuples. Donc oui, j'ai développé cette dimension qu'on retrouve dans le Talmud, par exemple entre Hillel et Shammai. Vous avez souvent parlé dans vos émissions de Shammai qui représentait un peu un rigorisme, alors que Hillel c'était justement cet accueil, cette ouverture. Il faut garder cette espérance.
Alors en français, on parle de l'ordination du rabbin. En hébreu, on parle de smicha, c'est un mot qui vient du verbe lismor, qui veut dire appuyer ses mains, une référence à une ancienne tradition où le maître appuyait ses mains sur la tête de son disciple pour le nommer maître à son tour. Comment interprétez-vous ce geste aujourd'hui, rabbin Philippe Haddad?
Oui, ça remonte même à Moïse et Josué. Moïse, d'ailleurs, dans la tradition, on ne dit pas Moshe Anavi, on ne dit pas Moïse le prophète, on dit Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître, notre rabbin. Et son premier disciple, c'est Josué, Yehoshua. Et en effet, on voit depuis la première génération cette transmission. Moi, j'interprète de la manière suivante, c'est que les mains représentent l'action et que la tête représente la pensée. Un petit peu dans la tradition juive, on a les téphilines, où on met les mains et la tête au service de Dieu, au service du bien, au service du prochain. Et qu'il y a peut-être quelque chose qui est dit ici, c'est-à-dire Moïse dit à Josué, donc le maître dit à son disciple, voilà, j'ai agi, j'ai réalisé tout ce que je pouvais réaliser, parce que l'essentiel, c'est quand même le faire plutôt que la pensée, mais je te donne ça comme ta propre mémoire, et maintenant, à ton tour de faire descendre ce qui est dans ta tête, dans ton cerveau, ce que je te donne, eh bien de le faire descendre dans ton corps pour qu'à ton tour, tes mains agissent dans le monde jusqu'au moment où tu devras transmettre et tu mettras de nouveau les mains sur la tête de ton disciple, etc. Et l'histoire continuera ainsi. C'est une synergie, c'est une dynamique entre la pensée et l'action. Je crois que c'est bien aussi le sens de notre judaïsme, entre la pensée et l'action.
Alors, une fois le diplôme en poche, le rabbin, femme ou homme, peut se spécialiser et suivre une autre formation pour approfondir certains domaines pendant une ou plusieurs années ou rejoindre une communauté immédiatement. Comment un rabbin devient-il rabbin de telle ou telle communauté? Choisit-il ou est-il choisi? Comment est-il nommé et par qui? J'ai presque envie de dire, y a-t-il des appels d'offres ? Comment cela se passe exactement, Rabbin Philippe Haddad ?
Oui, on peut dire en effet qu'il y a des appels d'offres. Quand j'étais dans l'institution consistoriale, nous recevions régulièrement par le grand rabbin de France une lettre qui annonçait « telle communauté cherche un rabbin ». C'est comme ça, par exemple, que j'ai eu mon premier poste à Nîmes. Ensuite à Paris, dans le 15e arrondissement, à la rue Fondary. Et à chaque fois, c'était appel d'offres. Et il se trouve à ce moment-là que lorsqu'il y a plusieurs candidats, et à ce moment-là, on passe à ce qu'on appelle un Shabbat plein. Qu'est-ce que c'est qu'un Shabbat plein ? C'est qu'on est invité pour un week-end complet, donc du vendredi soir jusqu'au dimanche. Et durant ces deux jours, en fait, eh bien, on participe à la vie de la communauté comme si on était déjà le rabbin. Pendant ces deux jours, en quelque sorte, la communauté regarde sans regarder un petit peu celui qui sera son pasteur. Et donc, s'il y a plusieurs candidats, ben, on est noté, comme à l'Eurovision, combien de points. Et bon, il se trouve que j'ai été choisi dans la communauté de Nîmes. Et il est possible qu'un rabbin, par exemple, reste toute sa vie jusqu'à la retraite dans une communauté. Il y a des rabbins qui sont connus pour être attachés à telle communauté et d'autres qui voyagent.
Vous venez de dire, Rabbin Philippe Haddad, que maintenant vous appartenez à une autre obédience, c'est-à-dire que vous êtes passé du courant consistorial, qu'on pourrait dire traditionnel orthodoxe, à un mouvement libéral, puisque vous officiez à la synagogue de la rue Copernic. Pourquoi ce choix ?
C'est une évolution de ma pensée, de ma pratique religieuse et aussi mon regard sur la communauté juive française contemporaine. J'étais dans un premier temps engagé religieusement, dans le point de vue d'une orthopraxie, voilà, et je me suis rendu compte que sociologiquement, la majorité de la communauté juive était libéral, non pas officiellement, mais dans sa conduite. Et je me suis dit qu'il y avait suffisamment de rabbins pour l'orthodoxie, pour s'occuper des juifs ou des juives orthodoxes, et que tout en gardant une orthodoxie personnelle, je trouvais que c'était important d'apporter un message de Torah, que je crois toujours authentique, à cette deuxième couche. Si on imagine une communauté avec un centre, un noyau de dur, et puis on imagine des cercles concentriques, eh bien cette deuxième ou cette troisième périphérie me paraissait plus intéressante, parce que d'abord elle est majoritaire, non seulement en France mais dans le monde, et que ça oblige aussi à redire le discours religieux dans les catégories de pensée, aussi bien de la philosophie, comme on dirait, postmoderne, que de la sociologie contemporaine. Et pour moi, c'est un défi de pouvoir parler à cette tranche de la communauté qui est aussi importante, parce qu'il n'y a pas à évaluer que un est plus religieux, plus juif ou moins juif, non. Et donc j'ai fait ce passage, en effet, je me reconnais c'est davantage dans un esprit libéral qui n'est pas un esprit contre l'orthodoxie, je le précise, en tout cas à mes yeux, mais qui est une autre manière d'appréhender le judaïsme, de transmettre, c'est vrai, par exemple, le principe de parité, très important, que les hommes et les femmes prient ensemble, j'ai des collègues rabbins femmes, et aussi cet état d'esprit d'accueil, d'ouverture, de non-jugement aussi des personnes, et de laisser les familles vivre leur judaïsme à leur manière, mais surtout de garder le principe de la communauté. Ça me paraît plus important même que la pratique religieuse. Dans le monde libéral, il faut savoir, il y a des personnes qui sont très très pieuses et très respectueuses de ce qu'on appelle la halakha, le rituel, mais pour moi, c'est une ouverture d'esprit qui correspond à mon état mental, intellectuel, affectif aujourd'hui. Please, I need help. I've had marital problems. Honey, I think it's time that we start talking about a divorce. Larry, we're gonna be fine. Professional, you name it. Larry, we've received a number of letters denigrating you and urging us not to grant you tenure. I need help. We're gonna be fine. I've tried to be a serious man. We're gonna be fine. Tried to do right, be a member of the community. We're gonna be fine. Just tell him I need help. Please. We're gonna be fine. I need help. We're gonna be fine. The rabbi is busy. He didn't look busy. He's thinking. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love?
Nous venons d'entendre la bande-annonce du film Serious Man des frères Coen. Comme un leitmotiv, on entend en anglais la phrase « I need help », « j'ai besoin d'aide ». Ce film mériterait de longues analyses passionnantes. Il montre entre autres que le rabbin est un personnage que l'on représente, duquel on se moque parfois, gentiment, que l'on peut critiquer sans crainte. Il apparaît un peu mystérieux, occupé à penser, mais surtout bienveillant et à l'écoute. Il est cette personne à qui l'on pense pour demander de l'aide. Le troisième rabbin semble marmonner quelques incantations kabbalistiques. Ce sont en fait les noms de tous les musiciens du groupe Jefferson Airplane qui écoutaient le héros du film quand il était jeune, dont l'une des chansons, Somebody to Love, est la bande-son du film. Comment interprétez-vous cette scène et cette attitude du rabbin Philippe Haddad?
Alors là, c'est peut-être aussi l'image du rabbin vue par les réalisateurs, qui sont les frères Coen. Hein. Ce n'est pas le rabbin tel qu'il est perçu traditionnellement, mais plutôt le rabbin tel qu'il est perçu dans l'esprit de cet enfant qui a grandi et qui serait en quelque sorte les frères Coen. Et donc, il voit à la fois ce personnage qui est surtout le dernier rabbin, qui est vraiment représenté un peu caricaturalement, c'est-à-dire avec la barbe blanche, qui est derrière son bureau en train de méditer. Donc, c'est le côté un peu sérieux du rabbin, celui qui médite sur la vie, le sage, comme on pourrait imaginer un tableau de Rembrandt. Et en même temps, ce côté comique, où il n'est pas en train de réciter les psaumes ou les versets de la Torah, il est en train d'égrener les noms de chanteurs. Et je pense que c'est le côté un peu Yitzhak, vous savez, un peu le côté rire, le côté humour, de l'humour juif, qu'on pourrait aussi attacher à cette image du rabbin. Parce que, bon, il y a un côté sérieux, mais ça n'empêche pas pour autant que l'humour dans le judaïsme, c'est très sérieux. Et qu'on ait à la fois ce sage d'un certain âge, comme ça, qui porte un peu le poids du passé et qui est en train d'égrener les chansons ou les noms des chanteurs de ce bar mitzvah, je me demande si c'est pas finalement cette double réalité du rabbin et qui permet justement de ne pas tomber dans une forme de fondamentalisme. Bah, finalement, vous savez, j'ai été formé par un rabbin, paix à son âme, il s'appelait le rabbin Shushana, et il nous a formés aussi dans les mouvements de jeunesse. Et j'ai toujours gardé cette image de ce rabbin avec une belle barbe de patriarche qui était assis au milieu des garçons et des filles. On chantait des chansons, il faisait des dessins et il était en même temps le maître qui nous enseignait. Mais il partageait le repas avec nous, il chantait avec nous et j'ai trouvé que ça avait ces doubles dimensions. Et voyez, je vous parlais tout à l'heure de cette notion de pont, de à la fois le passé et le présent. Eh bien, je trouve que c'est un petit peu ça qui passe. Enfin, un des aspects du film, je crois que c'est cette idée-là, c'est-à-dire c'est le passé, mais qui dit aussi des choses du présent, et ça permet aux jeunes générations d'entendre. Sinon, il y a une rupture.
Les jeunes générations entendent, mais le rabbin est aussi à l'écoute. Comment vous, personnellement, vous trouvez les mots justes? Là, on voit que en disant le nom des chanteurs, il fait comprendre à l'enfant, qui doit être certainement très étonné, qu'il est vraiment à l'écoute, presque en harmonie avec ce fidèle. Comment trouvez-vous les mots justes?
Ah, ça, c'est une question très, très difficile. C'est d'abord d'écouter. C'est vrai que une dimension rabbinique, c'est aussi d'être psychanalyste. Ça veut dire d'être à l'écoute des fidèles, de leurs problèmes. Je dois vous dire, je n'ai pas toujours trouvé de solution. C'est simplement le fait d'écouter qui a consolé ou qui a renforcé la personne qui était en face de moi. Je pense à des cas très particuliers. C'est pas propre au rabbin. Je pense des prêtres ou des imams, par exemple, devant la mort. Toute mort est tragique, mais lorsque c'est par exemple des enfants, quand c'est un accident, etc., comment vous pouvez expliquer? Des fois, on vous pose la question, mais monsieur le rabbin, mais pourquoi? Il n'a rien fait de mal. Expliquez-moi le bon Dieu, et il n'est pas juste. Presque la phrase d'Abraham, le juge de toute la terre n'appliquerait pas la justice. On n'est pas le secrétaire du bon Dieu, on ne sait pas. Donc, c'est surtout la relation humaine qui est importante.
Qui vous consulte? Il faudrait d'ailleurs préciser à qui vous vous adressez en général, à des personnes sur rendez-vous, comme dans cette scène du Serious Man. Mais d'abord, qui vous consulte?
D'abord, c'est les fidèles. Et les fidèles, en général, les parents. Parce que la question de la transmission avec les enfants, ils rencontrent des difficultés, parce que nous sommes dans une génération où les enfants échappent aux parents à cause des réseaux sociaux. Auparavant, il y a encore quelques décennies, les sources d'enseignement, c'était ou les parents, disons la famille au sens large, ou bien les maîtres à l'école. un petit peu, les journaux, etc. Mais aujourd'hui, il est possible que les enfants passent plus de temps sur les réseaux qu'à écouter leurs parents. Donc ça, c'est une question très, très importante qui revient très souvent chez les parents qui viennent nous consulter. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, d'une certaine manière, notre fils, notre fille nous échappe un petit peu. La tradition ne l'intéresse pas. Il y a la bar mitzvah. Bon, c'est un peu l'incontournable. C'est la majorité religieuse. Puis après, voilà, je travaille encore dans des mouvements de jeunesse, les relations avec la nouvelle génération. Et ça, je suis très heureux de ça, de pouvoir dialoguer, parce que souvent me posent des questions. Par exemple, il y a des animateurs de camps de vacances qui m'appellent avant. On a un thème à traiter pendant cette colonie. Est-ce que vous pouvez donner quelques conseils, etc. Donc, je donne des indications, des livres, des articles que j'ai écrits, ou bien on échange avec eux. Et ça, c'est vraiment très stimulant. C'est pas limité non plus à la communauté juive. Souvent, par exemple, des personnes chrétiennes qui viennent me parler. Je me souviens d'une personne qui est venue me voir et qui était prêtre et psychanalyste. Pourquoi il avait fait la psychanalyse? Parce qu'il voulait se déantisémitiser. Parce qu'il avait reçu une éducation anti-judaïque. Il est venu me parler comme témoigner du chemin qu'il avait parcouru. Donc c'est original comme relation. Donc il y a des fois des personnes non juives, ne serait-ce que parce que vous avez des fois des familles mixtes, vous avez toujours le père qui n'est pas juif, la mère qui est juive, donc l'enfant est juif selon les critères de la tradition juive, et le papa qui me dit, vous savez, moi je suis le goy de la famille, qui n'a rien de péjoratif, puisqu'en hébreu goy ça veut dire une nation, mais bon, dans le langage un peu commun, il dit, voilà, je suis le non-juif de la famille, j'essaye de trouver ma place. Ah, bien sûr aussi, l'accompagnement des couples pour les mariages, et puis la vie, c'est-à-dire les grandes étapes des naissances, etc. Donc on est des compagnons, c'est un peu le terme de Lévi. Lévi, c'est celui qui est l'accompagnateur. On accompagne les familles, on vit dans la cité. Donc aujourd'hui, on n'est pas limité dans nos relations.
Alors jusqu'où vous pouvez vous engager pour ne pas être intrusif par rapport à la vie privée comme un médecin ou un psychanalyste et par rapport à vos propres opinions et au regard que vous portez sur le monde, Philippe Haddad?
C'est une règle, quand on rentre dans une maison, même sa propre maison, il faut frapper à la porte de façon à s'annoncer. Ben, c'est ce que j'essaye de faire aussi dans mes relations avec les gens. J'essaye de pas les bousculer et je ne vais pas au-delà du seuil ou du lieu où on me dit de m'installer. Et donc, dans les relations avec les gens, j'essaye simplement de les écouter et d'aller dans le sens de leur demande, là où il y a le problème, là où il y a la question, il y a la difficulté, là où il y a la faille, je dis, écoutez, on va essayer de faire que votre problème, c'est aussi mon problème, et puis on va voir comment on peut solutionner. Encore une fois, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de solution toute faite. C'est vraiment presque un travail de psychologie, mais je crois qu'il faut essayer d'aimer au maximum ses fidèles, d'alléger un peu le fardeau, si on peut dire.
Alors, rabbin, on en a parlé tout à l'heure, ça veut dire beaucoup, ça veut dire l'archer, ça veut dire aussi la pluie, mais ça veut dire le maître d'abord. Quelle est la place de l'enseignement dans votre emploi du temps et l'emploi du temps d'un rabbin en général? Et vous, par exemple, quelle valeur cherchez-vous à transmettre? Quel contenu, rabbin Philippe Haddad?
Vraiment, l'étude est mon pilier, c'est ma colonne vertébrale dans le temps qui passe. J'étudie tous les jours. Étudier tous les jours, ça veut dire découvrir tous les jours. Vous connaissez la valeur du ridouche, du renouvellement de sens. Voilà, c'est-à-dire étudier pour découvrir. L'étude, c'est une aventure. Un étudiant de la Torah, c'est un aventurier. C'est un peu Indiana Jones, vous voyez. Et on va sur des sentiers qui paraissent des sentiers battus et bien connus. Puis à chaque fois, on dit non, mais on peut lire le texte autrement. Et cette étude, c'est vraiment une force. Enfin, quand on est à l'intérieur, on est peut-être addict d'une certaine manière, mais on ne peut plus s'en passer. Et ça donne une force, non seulement pour soi-même, mais c'est aussi la joie de l'enseignement vis-à-vis des autres. Et lorsqu'en plus, on a un public qui en redemande, surtout que là, nous sommes en train d'enregistrer dans une période de confinement, j'ai beaucoup de demandes, des gens qui veulent des zooms, ils sont chez eux, ils tournent en rond. Et face à cette angoisse, je remarque que beaucoup de personnes, des hommes et des femmes de tout âge, eh bien disent, on veut étudier, ça nous donne une respiration, ça nous donne de l'espérance contre la désespérance du monde. Et incontestablement, cette étude, ce Talmud Torah, ce Limud Torah, cette étude de la Torah, est un constituant de mon être. Même des fois, je dois pour des impératifs communautaires quitter mon livre alors que je suis dans une réflexion, c'est vrai que c'est presque un arrachement. Mais il y a aussi, il faut descendre vers les hommes, il ne faut pas seulement rester enfermé dans les quatre coudées de son étude, mais incontestablement, l'étude est une dimension plus importante. Et même, je crois, dans le judaïsme, on pourrait presque dire que même supérieure à la prière.
Je vous comprends parfaitement et je partage. Alors, parmi ces valeurs, il y a des valeurs de tolérance, mais il y a aussi la laïcité. Me revient cette réflexion de Lévinas qui écrit dans son essai intitulé « Laïcité et pensée d'Israël », il dit « La vraie corrélation entre l'homme et Dieu dépend d'une relation d'homme à homme dont l'homme assume la pleine responsabilité comme s'il n'y avait pas de Dieu sur qui compter ». État d'esprit qui conditionne le laïcisme même moderne. Rabbin Philippe Haddad, c'est très 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 audacieux. Vivre, faire comme si il n'y avait pas de Dieu. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a traversé ou qui vous traverse?
Il y a une tradition midrashique qui enseigne qu'il est plus important d'accueillir des invités que de recevoir la présence de Dieu. C'est vraiment étonnant. Cela est dit à propos d'Abraham. C'est au début du chapitre 18 de la Genèse. Et Dieu est apparu à Abraham qui était assis au seuil de la tente dans les plaines de Mamré. Et voilà qu'il y a trois bédouins qui sont des envoyés, mais dans un premier temps, il voit des bédouins. Et c'est comme si Abraham disait au bon Dieu, bon, attends-moi, toi tu es omniprésent, tu peux attendre, tu as l'éternité pour toi, mais eux, ils ont peut-être faim, ils ont peut-être soif, ils ont besoin d'un peu d'ombre. Donc, mon Dieu, excuse-moi, je vais les accueillir. Et le texte dit, il est plus important de recevoir des êtres humains créés à l'image de Dieu que la présence de Dieu elle-même. On pourrait dire que le baromètre de la religiosité, c'est finalement, c'est l'éthique. C'est la relation que j'établis avec mon prochain. Je ne sais jamais quelle relation authentique j'établis avec le bon Dieu. Je prie, mais peut-être que je me prie, peut-être que je me fais plaisir. Je ne reçois pas des images pieuses du ciel qui vont me dire, voilà, tu as bien prié, tu as 19 sur 20 aujourd'hui. Par contre, j'ai un baromètre de ma relation à Dieu. C'est cette relation que j'établis avec, avec le prochain.
Comment la laïcité a-t-elle une place fondamentale dans votre enseignement et dans votre travail et votre vocation de rabbin?
Oui, surtout la laïcité à la française, parce que je suis rabbin en France et je suis très attaché à cette laïcité qui garantit la liberté de culte, qui est le propre d'un état de droit, où toutes les expressions religieuses peuvent s'exprimer, mais aussi je défends cette idée d'une certaine humilité de la religion, c'est-à-dire que elle reste une affaire privée, elle n'a pas à s'imposer aux autres, encore moins par du prosélytisme, mais simplement le fait de respecter les cadres de la République, d'ailleurs que nous prions dans les synagogues, vous savez, chaque samedi, chaque Shabbat, nous prions pour la République française et les dirigeants. Et bien sûr, surtout dans toutes les obédiences, là je peux le dire, de France, le principe de laïcité est un principe fondateur de notre vie en tant que citoyen juif. Et je défends et je l'enseigne et de façon permanente comme une garantie de liberté et aussi de possibilité de dialogue donc entre les religions et aussi entre ceux qui sont religieux et ceux qui ne le sont pas. Moi, j'enseigne souvent que chaque personnage biblique, on peut poser un triptyque. Il y a toujours une double relation. Si on prend Dieu, l'un et l'autre, si c'est l'un, c'est Dieu par rapport à l'autre, et si c'est l'autre, c'est l'autre par rapport à l'un, par rapport à Dieu. Donc on est toujours dans une relation triangulaire qui fait que la relation à l'un est construite aussi sur la relation à l'autre. Et donc cette idée qui peut être surprenante, qui permet de dire d'une certaine manière que la religion est critiquable. La religion est critiquable par la dimension éthique qu'elle véhicule ou qu'elle prône. Et donc, c'est une autre manière de voir le religieux. Je m'approche de Dieu, je m'approche du ciel en m'approchant de mon prochain qui est bien sur terre. Vous connaissez peut-être cette phrase qu'on attribue au Rabbi Israël Salanter qui dit que mon problème spirituel, c'est le problème matériel de mon prochain. J'ai souvent cité cette phrase, je la trouve magnifique.
Alors en vous écoutant, me revient à l'esprit cette anecdote que rapporte encore Lévinas dans « À l'heure des nations », je cite « Hannah Arendt, quelque temps avant sa mort, racontait à la radio française qu'enfant, dans son Königsberg natal, elle déclara un jour au rabbin qui lui enseignait la religion « Vous savez, j'ai perdu la foi ». et le rabbin de lui répondre « Mais qui vous la demande ?» Et Lévinas conclut « Ce qui est important, ce n'est pas le croire, mais le faire, le bien faire et l'acte même de croire. » Fin citation. C'est quelque chose, je pense, que vous partagez. C'est à la fois audacieux, paradoxal, oui. Mais...
Moi, j'appelle ça en hébreu la « emuna ma'asit », la foi pratique. C'est pas tant la foi au sens où je crois en Dieu, je crois pas en Dieu, qui est une question, je pense, de la philosophie occidentale, mais c'est plutôt la manière dont j'agis. Vous savez qu'en hébreu, l'hébreu biblique, le verbe est toujours avant le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, le sujet se définit par l'acte. Et je trouve que cette idée de la tradition biblique, de la grammaire, qui met le verbe avant le sujet, définit bien l'esprit du judaïsme. C'est d'abord dans le faire, c'est pas tellement dans le croire, mais on peut croire tout ce qu'on veut, et on peut dire, voilà, je crois d'une telle manière. Oui, mais qu'est-ce que cette croyance engendre dans ta vie, dans ta relation avec ton prochain, avec le monde, avec ta famille, avec tes proches ou avec tes lointains? Et oui, je crois que cette idée, tu as perdu la foi, mais qui t'a demandé, en fait. C'est Charles Péguy qui disait, pour l'oraison funèbre de Bernard Lazare, un athée ruisselant de Dieu.
Merci Rabbin Philippe Haddad pour cette très réjouissante et belle conversation et profonde, et ce beau témoignage sur votre métier et votre vocation de rabbin. Je propose que nous nous retrouvions la semaine prochaine pour poursuivre. Je voudrais citer un livre. Parmi tous les ouvrages, je retiendrai « Pour expliquer le judaïsme à mes amis » paru en 2013 aux éditions In Press. Et c'est un livre qui est toujours d'une grande actualité. Merci encore, Rabbin Philippe Haddad.
Merci, Marc-Alain.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager et Marc-Alain Waknin. À la prise de son aujourd'hui, Valérie Lavalard. À la réalisation, Alexandra Malka. Kol Tov, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine. Thank you.